Bonjour à tous et bienvenue dans la grande table de fin d'année. Aujourd'hui, dans la seconde partie de l'émission, nous accueillerons l'avocat pénaliste Maître Henri Leclerc qui fait ses adieux au barreau après 65 ans de carrière. Dans quel état a-t-il l'impression de laisser la justice ? Réponse à 12h30. Mais avant cela, entrons dans l'humour féroce et l'univers noir de La Cage aux cons, la bande dessinée de Mathieu Angotier et Robin Recht adaptée du roman Le Jardin du Bossu de Franz Bartelt. Une histoire qui se déroule dans une demeure cossue, lieu de séquestration quasi cinématographique, où le con n'est pas toujours celui qu'on croit. Au-delà de l'intrigue aux allures pasoliniennes, la figure du con dans toute sa splendeur, son génie, con plein comme une outre, des références que charrie la bande dessinée sur son dos poilu, personnage idyllique dont s'empare avec délice les auteurs. Mathieu Angotier est avec nous autour de la grande table. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table. Maïlys Besserie.
Mathieu Angotier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes co-scénariste de cet album. La Cage aux cons, c'est votre second album en tant que scénariste et votre première adaptation, je crois. Pourquoi Le Jardin du Bossu de Franz Bartelt comme sujet d'inspiration première ?
Il y a un petit côté aile de papillon, c'est-à-dire au début c'est Robin Recht, le dessinateur, qui tombe sur ce livre, qui l'ouvre, qui l'apprécie, qui me le fait lire, et flash aussi pour moi. Et puis ensuite il arrive à convaincre un éditeur, David Chauvel chez Delcourt, de défendre le projet, de défendre le rachat des droits chez Gallimard aussi, qui n'est pas toujours une mince affaire. Et puis ça part, et on se met à travailler dessus, et puis moi j'ai la chance d'être embarqué dans cette histoire et de faire cette adaptation, qui est une première pour moi. Et en fait, ce livre s'y prêtait merveilleusement. Alors d'abord parce qu'on l'a adoré. Et puis, vous le disiez à l'instant, il est très cinématographique. Il y a plein d'ingrédients qui font que l'adaptation en BD était un vrai plaisir.
Alors, on va commencer par en raconter le pitch, disons, les grandes lignes. C'est une bande dessinée en noir et blanc, teintée de toute la grisaille de ce paysage de banlieue. Est-ce que vous pouvez nous dire les grands traits de l'histoire ? Apparaît ce personnage poilu en Marcel Blanc, représentant le con, il n'est peut-être pas le seul.
Absolument, alors c'est quelqu'un qui nous représente un peu tous dans nos contradictions. Il a ce côté très français d'être à la fois très méfiant à l'égard des élites et un peu fasciné par la société de consommation. Et puis aussi, il a ce côté solidaire envers les petites gens dont il fait partie. En même temps, il n'a pas envie d'être considéré comme un pauvre ou un déclassé. Donc il se bagarre un petit peu dans ses contradictions. Et puis il a une femme qu'il adore. Et cette femme, elle a envie de confort, elle a envie de fric tout simplement, pour employer les mots du bouquin. Et alors il va aller chercher du fric. Il va chercher du fric et il tombe au bistrot du coin, son bistrot préféré. Il tombe sur un type qui se vante d'avoir plein de pognon chez lui. Il se dit, mais bon, l'occasion est trop belle. Ok, je suis de gauche, je suis humaniste, mais là, ce con-là, il va partager son fric avec moi.
Alors, il y a cette idée, donc, toujours ce petit fond de, à la fois de misogynie, d'un univers aussi un peu beauf, comme ça, qui est travaillé, comme une sorte de pastiche, Mathieu Angotier, du roman noir, mais aussi d'un roman finalement assez social, puisque le con, celui que l'on croit être le con, celui qui va être pillé, en tout cas celui qu'il a décidé de cambrioler, c'est un grand bourgeois, pense-t-il, qui appartient à un milieu justement extrêmement cossu, et en même temps, on va voir qu'il va y avoir une sorte de lutte entre ces deux hommes.
Absolument. C'est autant misanthrope que misogyne, je dirais. Tout le monde en prend plein la gueule, hein. Les femmes, les hommes. Pour ça, tout le monde a son compte. Et effectivement, il y a presque une forme de lutte de classe qui se joue entre ces deux personnages, avec des choses trappes partout. Parce qu'en fait, celui qui représente le riche n'est plus vraiment riche. Il est au bord de la ruine. Celui qui est pauvre, en fait, se bagarre aussi pour lui-même éventuellement devenir riche. Et donc, il y a tout un jeu. Mais dans le fond, le bon sens terrien du personnage va être sa force et ce qui va le guider tout au long de ce bouquin. Et là-dessus, il y a quelque chose de très social dans l'approche de Franz Bartelt, que nous, on a tenu à garder. On a tenu à garder cette matière-là sociale, ce décor finalement du bouquin.
Et en même temps, il y a ce système de voix que l'on entend. Alors on assiste à la fois, au début d'ailleurs c'est très amusant, il y a comme un écart entre le monde extérieur et le monde intérieur des personnages. Ce personnage principal, il est finalement travaillé par une sorte d'idéal. D'idéal de gauche, il dit moi je suis de l'idée de gauche, d'ailleurs il y a cet art un peu des formules et du vocabulaire, et de l'amour de sa vie, ouais. Ce personnage de Karine dont on voit qu'elle lui crie dessus comme sur du poisson pourri en début d'album, il y a ces dissonances de voix comme ça.
Absolument, alors, c'est vrai que Il est pétri de contradictions, celles que vous venez de souligner, et puis il les livre au lecteur. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu garder, cette espèce de flux de voix intérieure. Il y a une voix off tout le long à la première personne. Alors, il y a un petit changement d'ailleurs par rapport au livre, on l'a mis au présent. Ça nous paraissait plus facile pour l'adaptation en BD, pour la lecture, pour plonger le lecteur plus rapidement. On a moins de temps dans une BD que dans un bouquin, donc on l'a mise au présent. Il y a cette voix off qui nous accompagne tout le long. Et qui est une voix presque de l'autobiographie dans sa sincérité, vous voyez. Et c'est ça qui nous a passionné dans ce bouquin, c'est à quel point il met à nu ce personnage qui est à la fois, comme vous l'avez dit, humaniste, mais en même temps il se veut cougar. C'est une expression qu'il a aussi.
Alors c'est une métaphore qui file tout le long de la bande dessinée. Hein, ouais. Le cougar, il se voit comme une sorte de félin prêt à attaquer.
Absolument.
Comme
c'est son animal totem, comme si.
Qui lui va pas très bien physiquement. Hein,
non, parce que finalement, je vais pas révéler l'histoire, mais c'est quelqu'un qui va rester assez prudent. Le cougar, on l'imagine félin, bondissant, etc. C'est pas du tout lui, qui est plutôt replet et engoncé dans ses contradictions. Mais il a cette image-là, et finalement, c'est quand même une force. C'est quelqu'un qui se bagarre. C'est quelqu'un qui est face à l'absurde de sa situation et qui se révolte. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup intéressé dans ce personnage.
Ah, Mathieu Angotti, ce choix du roman noir qui est finalement, enfin, je dis le roman noir, c'était une bande dessinée, mais c'est ce style-là qui est adopté avec tous ces codes légèrement d'ailleurs pastiché. Est-ce que c'est finalement une volonté de un peu rétro de faire revivre quand même aussi cette critique qui existe dans le roman noir d'un univers poisseux, difficile, glauque?
Ouais, y a
des petites gens aussi.
Une espèce de bouance, de boue un peu rance comme ça qui noie le livre. Et effectivement, on avait envie de se retrouver là-dedans. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que on avait presque envie que ça se passe dans les années 50 d'une certaine manière. Alors, pas du tout, parce que dans le roman de Frans Barthelt, il y a des éléments comme le téléphone portable qui fait que ça se passe de nos jours. Mais il y a ce côté retour à cet esprit mordant avec la dimension sociale. Moi, ça m'a fait penser un peu. J'adore les bouquins de Georges Pélican. Qui a contribué à l'écriture de la série The Wire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a cette noirceur, mais il y a cette, comme dans The Wire, dans cette série, où à chaque saison, il y a une dimension sociale qui est creusée. Et là, on retrouve ça. Donc, il y a la noirceur des romans noirs classiques, et puis il y a cette dimension sociale qui apparaît tout au long du bouquin que vous avez souligné tout à l'heure.
Mais il est marqué quand même dans le temps. C'est pas un personnage tout à fait d'aujourd'hui. C'est un personnage un peu vintage, un peu rétro. Il retravaille en lui-même les figures de la bande dessinée, du gros dégueulasse, des bidochons, il a ça en lui aussi, votre personnage, Mathieu Angotti.
Absolument, et c'est incarné par tout ce motif du téléachat, vous savez, qui apparaît comme ça dans
le... Il faut expliquer aux auditeurs, il y a un retour vintage de la télévision aussi.
Il y a carrément un retour vintage de la télévision, mais ça incarne ce que vous disiez à l'instant. Effectivement, c'est une BD qui va plonger les lecteurs qui ont connu ça dans les années 80-90, où la télé était toute puissante, et la télé, en fait, c'est un meuble dans la chambre dans laquelle est séquestré le personnage, qui va prendre pratiquement toute la place, et on va avoir ce jeu-là, et qui incarne aussi cette espèce de société de consommation que le personnage lui-même va finir par rejeter. Et donc, oui, il y a un côté rétro, mais presque une mise en abîme de ce qu'on est devenu, quoi.
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il part voler de l'argent à ce qu'il croit être un riche, et puis finalement, il se retrouve séquestré dans cette maison bourgeoise, et pas tout à fait malheureux de l'être. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a dans ce huis clos-là, qui a ce sentiment de cage dorée aussi.
Bah déjà, il tombe amoureux de son bourreau. Il y a un vrai syndrome de Stockholm. C'est assez fascinant à quel point. Alors l'autre le manipule à merveille.
Un jeu de perversion.
Absolument.
Mais il est pasolinien en ce sens-là.
Il est satanique, c'est-à-dire qu'il trouve toutes les ficelles. Il le manipule comme une marionnette. Simplement, le personnage garde sa révolte, mais quand même, il se fait manipuler. Donc, il tombe amoureux de ce personnage. Et puis, il tombe amoureux de la bicoque. Dès les premières pages, il est fasciné par ce décor, par le luxe, par les objets d'art. C'est quelqu'un qui se prétend un poète aussi, qui manie l'alexandrin, qui en invente. Et donc.
Et là, c'est un peu un jeu cruel hein, de la part de l'auteur hein, que de mettre ce personnage-là dans la peau d'un poète. Il y a une forme, il y a une tendance, mais une cruauté aussi à l'égard de ce personnage.
C'est très parodique, c'est-à-dire que ça fait penser, là aussi, peut-être en remontant encore beaucoup plus loin, ça fait penser un peu à Erasme, à Rabelais, ces grandes parodies d'il y a bien longtemps qui mettent qui la satire de ces pédants. Et y compris les poètes, y compris les philosophes, parce qu'ils parlent beaucoup aussi de philosophie. Et donc, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde y passe. Tout le monde en prend pour son grade.
Alors on va écouter Manchette, c'était le 19 octobre 83, à l'occasion du Festival du Polar de Reims.
C'est un genre de livre qui est, dès ses origines, produit directement pour le marché, Il est produit directement pour être vendu, il n'est pas produit par quelqu'un qui a un mécène, par exemple, ou qui a des rentes et qui écrit pour l'amour de l'art. Il est écrit pour bouffer. Et dans la mesure où il est écrit pour bouffer, il devient la vérité du roman artistique, parce que le roman artistique aussi est devenu un objet de marché. Simplement, on cache ça, on n'en parle pas, c'est censé être de l'art, c'est censé être noble, le roman artistique, alors que c'est devenu une foire. D'ailleurs, on fait des foires à Francfort et à Nice et ailleurs, y compris pour le roman artistique. Le polar, ça me paraît presque plus franc. Le fait qu'on s'avance en disant « je suis de la littérature alimentaire ». Et ça permet, à ce moment-là, de contourner l'adversaire. Et au lieu d'être un malheureux écrivain d'art qui est traqué par les questions du marché, on est un minable auteur de polar, rien qu'un auteur de polar. Et puis, en secret, pendant qu'on raconte sa petite histoire polareuse avec plein de coups de feu et tout ça, on est en train de travailler sur le texte. Personne ne le sait.
Mathieu Angotti, qu'est-ce que vous en pensez des propos de Manchette ? Est-ce que finalement le polar en lui-même n'est pas un masque pour pouvoir avoir la liberté d'écrire ce que l'on veut ? Là, vous pouvez vous permettre tous les mauvais goûts du monde, qui sont tous dans la bande dessinée d'ailleurs, parce qu'il y a ce masque aussi du noir, du roman noir.
Oui, c'est ça qui fait un bon polar, en fait. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime, c'est quand les polars, en fait, sont habiles, parce que derrière la surface de l'écriture, derrière la surface du suspense, tout simplement, derrière le côté je prends le lecteur et je l'oblige à tourner les pages pour savoir ce qui va se passer, en fait, j'en profite de manière un petit peu souple pour lui faire passer une vision du monde, tout simplement. Et je pense que, en ce sens, le polar a ceci de génial, c'est que c'est très rare de trouver un lecteur ou une lectrice qui sera pas sensible à la petite musique de l'énigme. Et du coup, on les attrape. Et après, on peut leur faire passer plein de messages.
Ouais. Alors, avant de rentrer un peu plus dans ce jeu de masques, cette comédie sociale que l'on retrouve aussi en huis clos dans le huis clos de cette maison, quand même, il y a des cadavres enterrés au sous-sol, donc il y a quand même une dimension macabre aussi à cette comédie-là. Il y a quand même le verbe « haut » de ce texte. Alors comment est-ce que vous avez travaillé par rapport au texte d'origine ? Est-ce que ce verbe « haut » était déjà présent dans le jardin du Bossu ? Est-ce que vous-même, vous l'avez retravaillé ?
Ça, c'est un point sur lequel on est tombé très vite d'accord avec Robin Recht quand il a découvert le livre, quand je l'ai lu et quand on a commencé à travailler. Respecter ça. Ça voulait dire déjà essayer de prendre des dialogues de manière la plus intacte possible pour les reconstituer dans la BD. C'est pas toujours évident parce que il y a tellement de déperditions entre un bouquin qui fait 200 et quelques pages et une BD, mais on voulait respecter ça parce qu'effectivement c'est une langue qui était merveilleuse, qui avait une musique et donc voilà, le principal objectif, c'était de le respecter. On a fait quelques petits ajustements pour que ça tienne dans la BD, mais si on a réussi à restituer ça, et on a eu quelques échanges de mails avec France Bartelt, et c'était très précieux parce que il s'est mis à distance en disant faites votre bouquin, faites ce que vous voulez. Mais en même temps, on sentait que le respect qu'on a eu de cette langue, il l'a identifié, il l'a apprécié, et j'espère qu'on a réussi là-dessus. Ouais.
Ah oui, c'est cette manière de tourner les mots. Hein, donc il dit je suis basé sur l'idée de gauche, le con, c'est la grande classe, ça bat. Un vrai musée, tout pour me plaire, il y a juste un problème, le con m'a pris en otage. Il y a quelque chose de l'ordre d'une musicalité, de dialogue, de film. On retrouve là aussi un rapport au cinéma peut-être, absolument. En tout cas à une forme dialoguée, que l'on retrouve moins d'ailleurs en littérature qu'en bande dessinée. Ça a dû beaucoup vous servir ça aussi.
Ah, ça nous a... Absolument. On s'est même permis une petite coquetterie de rajouter une citation d'un film qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Truand, qui n'était pas dans le bouquin d'origine. Mais ça allait tellement bien. En fait, il y a cette musique, effectivement, presque... Ça peut être aussi... Ça pourrait presque être une pièce de théâtre, du reste. On verrait bien... des portes qui claquent, des personnages qui rentrent. Bon, alors, c'est un huis clos, bien sûr, mais il y a cette musicalité qui, à mon avis, qui ferait les délices d'un acteur ou d'acteur ou d'actrice qui voudrait se saisir de ces personnages-là parce que, tac, il y a presque de la punchline.
Alors dans le con, il y a aussi cette figure délicieuse d'un jeu de miroir entre celui qui estime être le con, c'est-à-dire celui qui vient voler, celui qui est volé. Il y a un jeu de miroir entre les deux, chacun représentant une forme de bêtise humaine d'une certaine manière, en tout cas de malhonnêteté aussi. Comment est-ce que vous avez travaillé ce jeu de miroir ? Mathieu Gauthier.
Alors, Robin a travaillé, par exemple, avec un élément très simple, qui sont les lunettes du geôlier. C'est un personnage, autant le héros a des traits très particuliers, très spécifiques, qui forment son identité, autant celui qui le séquestre est presque une figure à la Tintin, avec une paire de lunettes qu'il n'enlève jamais, et qui sont ce symbole du miroir. Et donc, voilà, un élément graphique, on va dire. Et puis, dans la mise en scène, il y a toujours cette espèce de champ contre champ. Il revient beaucoup, d'ailleurs c'est quelque chose qui serait aussi cinématographique, mais c'est quelque chose sur lequel Robin a beaucoup travaillé, ce champ contre champ. Et puis dans le texte, eh bien, la musicalité des dialogues fait que voilà, c'est vanne contre vanne, punchline contre punchline. Je te fais un alexandrin, je t'en fais un autre, je te balance une citation, je te mets une répartie. Dès le début, il commence à s'envoyer un dialogue autour de Jean Valjean, je vais pas dévoiler, mais voilà, il y a quelque chose comme ça.
Il cite beaucoup de Victor Hugo d'ailleurs, ouais. Votre personnage, votre anti-héros.
Il y a un ping-pong en fait.
Il connaît un peu que ça, il y a quelque chose un peu autour de ça.
Ouais, hein. Il connaît Corneille aussi.
Corneille, un peu.
Ouais. Et puis,
des références d'école en fait.
Absolument. Et puis il a ses propres références, qu'il invente lui-même des alexandrins, mais il y a un côté ping-pong qu'on retrouve à la fois graphiquement et puis dans les dialogues.
Alors, je vous propose d'écouter Mathieu Chédid, c'est le grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un
Je vous passe devant, j'étais là avant vous. Vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne. Je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, que tout petit tellement je suis un grand.
Petit con, l'album Lettre Infinie, sorti le 25 janvier 2019, tout simplement. Mathieu Angotti, on parle de la cage au con, et dans la cage au con, on va aussi parler du graphisme et de votre travail avec Robin Recht, cette nuance de noir et blanc, de grisaille, mais aussi ce travail finalement autour d'un roman graphique plus que d'une bande dessinée d'ailleurs. Peut-être un travail très important sur la mise en scène des décors. Là aussi, on retrouve un univers peut-être de cinéma. Est-ce que vous avez travaillé de cette manière-là? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble?
Alors, Robin, c'est le dessinateur. C'est lui qui m'emmène dans l'histoire pour faire le scénario. C'est lui qui a les clés ensuite de la mise en scène. Donc on en discute et puis c'est son œuvre à lui. Et c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé sur les décors. Il a travaillé évidemment sur les nuances de gris, du noir. C'est un noir qui est très charbonneux. Il y a aussi des grands aplats, des lavis gris qui forment le fond de la plupart des scènes. Il y a ce décor que vous citiez tout à l'heure de banlieue qu'on retrouve au début, à la fin, avant de rentrer dans le huis clos de la maison.
On pense à Simenon, on pense aux mises en bande dessinées aussi de Nestor Burma.
Bien sûr, ces références-là, on les a. On est très heureux d'ailleurs quand on entend ces références. À la fois le côté Audiard sur les dialogues qu'on a entendu régulièrement, même si personnellement je rends plutôt hommage à Barthel parce que c'est son dialogue, et puis l'hommage à Tardy évidemment pour ce côté. Alors c'est pas situé comme l'est souvent Tardy. On sait où c'est Tardy. Souvent c'est dans Paris. Là on ne sait pas exactement. On sent que c'est une banlieue. Ça peut être une banlieue parisienne, ça peut être ailleurs. Mais il y a ce côté décor de vieux polar à la Melville.
Il y a le troquet malfamé quand même. Il y a le bistrot.
D'ailleurs, qu'on a appelé le bistrot Gérard Lambert, parce qu'il y a un côté aussi Renault dans cette histoire, dans la gouaille, et puis dans ce décor, le Renault des années 75-85, le Renault de Gérard Lambert, le Renault de deuxième génération, enfin, ces décors-là. Et donc, effectivement, c'est quelque chose dans lequel Robin s'est imprégné pour traduire tout ça. Et plonger le lecteur dans cette ambiance dès la première page.
Alors, il y a un côté sans du tout dévoiler le twist final, puisqu'il y a une dynamique aussi sur des questions rythmiques. Comment est-ce que vous avez coupé le texte? Parce que le travail n'est pas qu'un travail de punchline, non. Il faut quand même que la narration avance. Il y a une galerie de personnages qui interviennent dans ce huis clos de la séquestration, qui font naître quand même une atmosphère tendue, macabre, en tout cas le danger quand même d'une mort à venir, que n'a pas totalement l'air de mesurer l'anti-héros, ce qui le rend d'ailleurs extrêmement sympathique. Il est comme suspendu au-dessus de cette menace.
Exactement. C'est très étonnant. C'est-à-dire qu'il a à la fois le côté un peu éthéré, effectivement. D'ailleurs, ces grands airs qui se donnent de poète. Et puis, il a vraiment les pieds sur terre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit en permanence à des stratagèmes. Alors, pendant la plupart du temps et pendant tout le long du livre, il les utilise pas par prudence, il se caractérise par sa prudence, mais en même temps, il a ce côté très terre-à-terre, très terrien, de celui qui va finir par trouver la solution. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant dans ce personnage et qui nous a beaucoup plu.
Cougar, son côté instinctif. Ouais, et pourtant, on a le sentiment qu'il suffit à son geôlier de le distraire. Alors, de le distraire, là aussi, on passe par tout un panel, c'est-à-dire à la fois ses téléachats, mais c'est aussi lui envoyer une prostituée. C'est aussi comme si il suffisait de le nourrir, de lui envoyer des prostituées, de lui mettre devant la télé pour que son univers soit plein. Là, il y a une critique très forte quand même qui apparaît à travers ces choses-là.
Absolument, c'est la critique que lui-même formule du reste à la fin sur les paillettes, sur cette espèce de fascination qu'on peut avoir du monde des objets, du monde du luxe,
de l'argent,
de la possession, de l'avoir plutôt que du paraître, etc. Effectivement, on a voulu garder ça pour répondre à votre question de tout à l'heure. On a élagué certains morceaux. Dans le livre, il y a des digressions, il y a des flashbacks, mais même donc ça, on n'a pas pu les inscrire. Par contre, on a essayé de garder la galerie de personnages dont vous parliez, parce que c'est vrai que c'est ça qui emmène le personnage et qui donne ce côté fascinant. On se dit, mais jusqu'où il va sombrer? Jusqu'où le tourbillon va l'emporter? Jusqu'où il va se faire avoir? Y compris jusqu'à être dans le coffre de la bagnole de la personne qui le sécrète, etc. Jusqu'où il va sombrer? Et puis, tac, il prend son impulsion et je te raconte pas l'histoire, mais voilà, c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui se bagarre, c'est quelqu'un qui se révolte. Donc à la fois, il a tous nos petits travers de femmes et d'hommes modernes prisonniers jusque de nos écrans. Et à la fois, il a ce côté révolté de celui qui refuse, y compris de se laisser berner. Parce qu'il y a aussi cette tentation de croire à n'importe quoi.
On y voit presque une critique du néolibéralisme, d'une certaine manière. C'est-à-dire que face à un monde d'argent comme ça, il va être à la fois ému, séduit, et puis, au fond, retrouver son chemin. Il y a comme une critique méta d'un système dans la bande dessinée Mathieu Gauthier.
Absolument, et il faut voir la solution qu'il trouve. C'est une solution la plus anti-néolibérale qui soit. C'est la solution presque ancestrale. Et puis, il y a ce côté, il a envie de croire à des belles histoires, celles que lui vend la société de consommation, le néolibéralisme. Il a envie d'y croire, mais il y a un truc qui le retient. Et finalement, il y a dans ses tripes, et presque ses tripes humanistes, quelque chose qui le retient et qui l'empêche de croire à toutes ces balivernes et qui le fait rester sur sa ligne, celle de quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a envie de vivre, quelqu'un qui prend plaisir.
C'est pas un beau défenseur non plus de cet idéal-là non plus, parce qu'il a un côté, on se pose des questions sur ce qu'il appelle l'amour, ce qu'il appelle la poésie, ce qu'il appelle la philosophie. Il y a comme ça une sorte de pauvreté aussi qui émane de...
Mais c'est marrant, vous voyez comme j'essaye de le défendre. Quoi. Il est très attachant, mais en même temps, il est naze, comme dirait sa copine dès le début du bouquin. Et en même temps, j'ai envie de le défendre parce qu'il a... C'est nous, quoi. Voilà. Donc, ok, on est juste bassement humain comme lui.
Il y a un rapport aussi à la candeur. Peut-être que ça, c'était une des pirouettes pour pouvoir finalement l'opposer à un personnage qui est peut-être un peu plus pervers, quoi, qui est un personnage de grand malfrat, de grand séducteur, alors que lui est une sorte de petit voleur, comme ça.
Absolument, c'est un des contrastes du bouquin, sachant que malheureusement, il n'y a pas de morale parce que tout le monde s'en sort. y compris le grand méchant. Et donc, c'est ça qui est terrible et jouissif dans le bouquin de Franz Bartelt et qu'on a tenu à garder, on n'a surtout pas modifié ça, c'est à quel point il n'y a pas de prise de position morale. Il y a un côté satire de la société telle qu'elle est. Voilà ce que j'ai sous les yeux, dit Franz Bartelt. Voilà les femmes et les hommes avec qui on a affaire. Voilà qui nous sommes. Débrouillez-vous pour en tirer une morale, mais accrochez-vous parce que c'est pas évident.
Alors vous, dans vos choix d'adaptateurs, justement, de scénaristes, comment est-ce que vous avez pu justement faire vos choix en vous disant, voilà, ça passe en action visuelle de la bande dessinée, j'en ai pas besoin dans le texte. Comment est-ce que vous avez finalement trouvé votre canevas à l'intérieur de ce double langage qu'est la bande dessinée avec son texte et ses illustrations?
Moi, j'ai été beaucoup guidé par la voix intérieure, par ce flux qui nous emmène et qui nous attache à lui. Et puis, je vous dis, on a mis ça au présent, ce que vous disiez tout à l'heure, pour donner quelque chose de très vif dans l'action. On a gardé des rebondissements. On s'est appesanti quand même sur certains points qui étaient, par exemple, cette histoire du téléachat que les lecteurs et les lectrices découvriront. C'est pas facile, hein. Il y a une prise de risque.
C'est une manière de découvrir le passé aussi. Absolument. De l'agresseur, qu'on connaît rarement dans les films, par exemple.
Ouais, ça nous a permis d'avoir ce petit bout de passé. Il y a un moment, un personnage qui raconte aussi un petit bout de passé du geôlier. C'est un équilibre subtil. C'est ça qui fait, si la BD est réussie, c'est qu'on a réussi cet équilibre-là. Il y a un côté presque magique hein, à choisir ensemble. Alors, ce qui est génial pour moi, c'est d'avoir pu être deux dans ces choix-là. C'est-à-dire que quand on se lance seul dans l'écriture, vous savez ce que c'est, les risques, on les prend tout seul. Là, on est à deux et donc on peut discuter et on peut se dire, ok, là, le subtil équilibre, la chimie, elle devrait pouvoir fonctionner.
Merci Mathieu Angotti. Je rappelle le nom de la bande dessinée À quatre mains avec Robin Reicht, La cage au con, publiée aux éditions Delcourt.
Merci.